Radio Orient présente Pluriel.
Vous êtes bien sûr Radio Orient, avec vous François-Xavier de Calonne, l'invité de Pluriel, Amélia Lacraffy, députée des Français de l'étranger. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes aussi déléguée générale de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, membre fondatrice du comité de liaison Israël-Palestine. Craignez-vous, dans cette guerre entre Israël et l'Iran, une intervention directe des États-Unis, comme le menace le président Donald Trump?
Je le crains, oui, parce que malheureusement... Trump a un avis un jour et un autre avis le lendemain, donc le risque existe totalement. Après, continuer de bombarder le régime, je pense, est une erreur, même si ce n'est pas à moi de le décider. Mais je pense qu'Israël a largement fragilisé toutes les installations nucléaires de l'Iran et que maintenant, il va falloir passer à la diplomatie. Après, c'est vrai que la diplomatie n'a pas tellement fonctionné et qu'on a laissé l'Iran tuer ses femmes pour une mèche de cheveux et enrichir l'uranium. Donc bon, maintenant qu'on a affaibli vraiment ses capacités, je pense qu'il faut passer à la diplomatie parce que on va, à mon avis, potentiellement passer un scénario catastrophe.
Passer à la diplomatie et donc cesser les frappes israéliennes sur l'Iran, c'est ce que vous demandez?
Cesser les frappes des deux côtés, en fait, et même iraniennes sur les Israéliens, parce que il faut quand même remettre un peu l'Iran où il est. C'est quand même le seul État qui a dans sa constitution qu'il veut supprimer de la carte un autre État. Il ne faut pas l'oublier non plus. Moi, je pense aux civils, aux pauvres civils des deux pays qui n'ont rien demandé et qu'il faut absolument préserver. Mais il faut, voilà, faut se rappeler que c'est un pays qui a dans sa constitution la destruction d'un autre État et qui interdit aux femmes d'avoir une mèche de cheveux et qui peut les tuer pour ça. Donc il faut peut-être remettre les choses à leur place. Et un pays, pardon, aussi, qui fragilise et qui crée les tensions et les guerres dans toute la région. Je rappelle juste que les Houthis sont armés par l'Iran. Le Hamas, j'en parle même pas. Le Hezbollah.
Vous faites référence à ce que l'on appelle les proxys de l'Iran.
La Syrie, l'Irak, c'est quand même un pays qui détruit tout le Moyen-Orient, qui fragilise et qui vraiment a coûté la vie de plusieurs milliers de personnes, voire millions, qui a soutenu le régime Assad, c'est 500 000 de morts. Et ça, il ne faut surtout pas l'oublier.
Et comment vous pouvez expliquer la position de la France dans ce conflit, Paris, qui, dès les premières attaques israéliennes, a réagi en mettant en avant le droit d'Israël à se défendre?
Je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête du président, mais j'imagine quand même qu'il a en tête la Constitution et tout ce que dit Khomeini depuis qu'il est là. C'est détruire l'entité sioniste ou détruire le petit Satan Israël, grand Satan États-Unis. C'est vraiment les mots qu'ils utilisent à chaque fois. Donc je pense, je peux me tromper, mais qu'ils pensent à ça quand ils disent ça. Après, je pense que la France est dans son rôle et doit essayer de garder une voie équilibrée. Je pourrais même dire non alignée, ça vous fera penser à d'autres pays, mais ni alignée sur Washington, ni alignée sur Téhéran, mais fidèle au droit international, qui n'est d'ailleurs pas respecté par les deux pays. Et je pense qu'on est dans notre rôle d'avoir cette ligne, parler à tout le monde et ne pas cautionner les violations du droit international.
Mais quand Paris, Berlin et Londres, dès les premières attaques israéliennes, réagissent en mettant en avant le droit d'Israël à se défendre, cette position n'est-elle pas contradictoire avec leur engagement de longue date à trouver une solution par la négociation dans le dossier du nucléaire iranien et non par la violence?
C'est vrai. Sauf que l'Iran a continué d'enrichir son uranium. Je pense que Trump est quand même un petit peu responsable de s'être retiré de l'accord à l'époque, le JCPOA. C'était un mauvais accord, mais c'était quand même un accord. Donc je pense qu'il a fait une grande erreur de se retirer de l'accord. Et finalement, en 2024, il se rend compte qu'il a fait une erreur, ou 2025, et il donne à l'Iran 60 jours pour signer un nouvel accord. 60 jours. Israël a frappé le 61e jour. Ensuite, je pense, je peux me tromper encore une fois, évidemment, parce que beaucoup d'informations ne circulent pas et je comprends pourquoi, mais on a su, comme par hasard, la veille et pas avant, peut-être pour pas affoler le monde, que l'Iran est arrivé à 60% d'enrichissement de son uranium. Donc il lui reste un seul palier pour créer la bombe nucléaire.
Je l'ai dit, vous êtes la fondatrice du comité de liaison Israël-Palestine. Vous avez rencontré des représentants de la société civile palestinienne et israélienne la semaine dernière. Quelle a été leur réaction quand ils ont appris le report de cette conférence onusienne à New York, qui devait donc être coprésidée par la France et par l'Arabie Saoudite, cette conférence dont l'objectif était de travailler à une solution à deux États.
À deux États, exactement, et à la paix. Et la sécurité pour les deux États et surtout la dignité. Bah, en fait, ils ont totalement compris, en fait, plus que les députés français d'ailleurs, mais ils ont surtout été impressionnés, choqués ou surpris par les frappes israéliennes sur Téhéran et sur les différents lieux, notamment Natanz et Ispahan. Et c'est surtout ça qui les a, voilà, qui les a surpris, étonnés, inquiétés, et très largement inquiétés, parce que dans ces militants qui étaient présents, israéliens et palestiniens, bah, nombreux habitent à Tel Aviv ou à Jérusalem. Donc ils ont tous de la famille là-bas. Certains sont encore bloqués ici, et je pense à Nava, la rabbine. Elle est encore bloquée ici chez un de ses fils, et elle a un fils à Jérusalem, et elle est extrêmement inquiète, sachant qu'ils ont déjà eu plus de 20 morts en Israël, donc elle est très 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 inquiète. Donc déçue, inquiète, et puis une sorte de, le sort à charme. Heureusement, il faut aussi diffuser l'information que 55% des réservistes refusent d'aller à Gaza, parce qu'ils trouvent cette guerre injuste, que 30% de l'armée ont quitté, ils ne veulent pas. Beaucoup ont fait de la prison et continuent de militer pour la paix entre les deux États.
Et la reconnaissance d'un État palestinien, cela aurait un effet concret aujourd'hui ?
Ça aurait un effet concret parce que, d'abord, vous donnez de l'espoir. Et je pense qu'il n'y a pas mieux, en fait. Un homme ou une femme désespéré, sa vie ne vaut plus rien.
Quand le président de la République, Emmanuel Macron, dit qu'il faut attendre le bon moment, il comptait justement sur cette réunion qui devait avoir lieu à l'ONU, vous lui dites, écoutez, monsieur le président, il faut reconnaître maintenant l'État palestinien, il y a urgence.
Moi, je serais d'avis de dire qu'il ne faut surtout pas donner de crédit aux terroristes du Hamas. Parce que moi, j'aime bien ceux qui me parlent de résistants. Non, c'est les terroristes. D'accord ? Quand on tue des civils qui veulent la paix avec vous et qui veulent un État palestinien, quand vous les tuez, vous n'êtes pas des résistants. Vous êtes des terroristes, d'accord. Et quand dans votre charte aussi, votre objectif dans la vie, c'est détruire Israël et pas développer la Palestine et faire vivre les Palestiniens, leur donner un avenir, des études, des hôpitaux, des routes, enfin vraiment de la culture. Non, non. Votre seul but dans la vie, c'est détruire Israël. Point. Je ne pense pas qu'on puisse vous appeler des résistants. Bon, ça, je mets de côté. Ce que je n'ai pas envie, et c'est, je pense, que pense le président de la République, on ne veut pas donner crédit, en fait, à la création, à la reconnaissance française. On ne veut pas donner le crédit aux terroristes. Parce que la crainte, c'est que dans l'inconscient collectif, on se dit, OK, donc pour arriver à notre objectif, il faut faire des actes terroristes. Et c'est que la force qui nous permet d'arriver à notre objectif. C'est la crainte du président et je peux la comprendre. Mais d'un autre côté, quand vous parlez aux Palestiniens et aux Israéliens qui veulent la paix entre les deux pays, ils vous disent il faut l'État maintenant. Il faut l'État maintenant et ils le disent tous. Donc comme moi, je ne sais pas mieux qu'eux, en fait, je ne sais pas mieux qu'eux, je suis ni israélienne ni palestinienne, j'écoute en fait ceux qui sont sur place et qui subissent ce que nous avons la chance de ne pas subir. Donc je les écoute et si eux nous disent après trois générations qu'il faut la paix maintenant tout de suite, ben je pense qu'il faut leur donner. Et la paix maintenant tout de suite, ça veut dire un État maintenant tout de suite.
Et vous écrivez qu'il est temps d'exiger un accès total et sécurisé à l'aide humanitaire pour Gaza. Depuis l'ouverture le 27 mai dernier à Gaza de centres d'aide, des centres gérés par la Fondation humanitaire de Gaza, c'est son nom, c'est une organisation soutenue par les États-Unis et Israël. Eh bien, les personnes qui viennent chercher de l'aide sont régulièrement prises pour cible. Il y a plusieurs dizaines de morts. Comment mettre fin à ce carnage ? Quelle est la marge de manœuvre aujourd'hui de l'Union européenne, notamment?
Malheureusement, l'Union européenne est aux abonnés absents. Enfin, je vois pas que. J'ai pas l'impression que sa voix est très audible. Je l'entends pas tellement. Peut-être qu'elle parle, mais en tout cas, moi, je l'entends pas.
Sachant que les 27 se réuniront dès lundi prochain pour une réunion qui abordera notamment les crimes de guerre dans la bande de Gaza.
Très bien. Et après? Bah, je veux dire, qu'est-ce qui va se passer? Mais rien du tout.
La question, ça peut être la remise en question de l'article 2.
Ouais, mais ils sont fous en fait. Netanyahou sont fous. Tant qu'on a à la tête de ce pays, de ce beau pays, un fou, d'extrême droite, avec sa coalition mortifère, qui voit les Gazaouis comme des insectes, qui sont pas humains, qui sont tous coupables. Même quand on a un bébé de 4 mois, il peut pas être coupable. Enfin, à un moment donné, quand on a des gens comme ça, qui ont dit des choses comme ça, qui ont été condamnés, qui ont été... Mais en fait, vu qu'ils sont pas signataires de certains traités, enfin, ils en ont strictement rien à foutre. Ce qu'il faut, c'est laisser accompagner, aider, je ne sais pas comment, les Israéliens. Donc, il faut donner la voix aux députés israéliens qui sont contre cette coalition, à l'ancien Premier ministre Ehud Olmert. Il faut donner encore plus de voix à ces politiques israéliens. Il faut pouvoir renverser cette coalition, avoir un nouveau Premier ministre qui ait envie, en fait, de se dire que, bah, en fait, une vie humaine est importante et que toutes les vies humaines sont importantes et que mes voisins palestiniens ne sont pas des insectes. Donc, ils vont se rencontrer, c'est super. Je pense que l'accord d'association, y a des conditions. Et dans cet accord d'association avec l'Union européenne, respecter le droit international et le droit humanitaire en fait partie. Donc s'ils ne le respectent pas, suspendre, je pense que c'est normal. Et je pense qu'on aurait dû le faire depuis bien longtemps. Mais, encore une fois, je pense que, en fait, c'est rien. Pour moi, pour lui, pour Netanyahou, c'est un coup d'épée dans l'eau. Ça ne va pas l'empêcher de dormir. Après, et là où c'est difficile pour moi de le dire, je pense que beaucoup de pays arabes, et pas qu'arabes, occidentaux, à mon avis, se disent ce que se disent les Allemands. Enfin, il fait le sale boulot, parce qu'en même temps, l'Iran pourrit la vie des Syriens, des Libanais, des Yéménites, depuis des Palestiniens en premier lieu, depuis 40 ans. Donc à un moment donné, ce régime, ça suffit. Et se dire que le monde entier peut laisser la monarchie tuer ses femmes pour une mèche de cheveux, les fouetter parce qu'elles répondent mal, et tuer, c'est 300 ou 400 000 Yéménites, 500 000 Syriens, enfin, je veux dire, c'est des vies humaines, c'est pas que des chiffres. Donc on peut pas se dire, on peut rien faire, les mollas. Non, on peut, il faut faire. Maintenant, c'était peut-être pas la bonne manière, mais comme je ne connais pas la bonne manière, ma foi, je sais que de nombreux pays pensent qu'il fait le sale boulot.
Merci. Madame la députée Amélia Lacraffi, vous êtes députée des Français de l'étranger. Vous représentez notamment les Français établis au Liban et dans les pays du Golfe. Vous êtes aussi déléguée générale de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et membre fondatrice de ce tout nouveau comité de liaison Israël-Palestine. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.
C'était Pluriel.